Alors je présente maintenant notre conférencier qui nous a fait la gentillesse de venir de Genève hier. Il s'agit de Alvaro de Rujola qui est né en 1944 et comme son nom l'indique, sans que ce soit surprenant, il est né à Madrid. Il est chercheur au CERN depuis 1977, d'où la venue depuis Genève. Et professeur aussi non résident à l'Université de Boston depuis 1985. Formation, il a un doctorat en physique théorique de l'Université Complutense de Madrid en 1968. Il a été successivement professeur dans cette université, l'Université Complutense de Madrid de 65 à 69. Professeur invité à l'Institut des hautes études scientifiques, avec lequel nous avons beaucoup collaboré l'an dernier pour la programmation. Il l'a été en 1972, chercheur à Harvard, professeur assistant à Harvard, professeur associé à Harvard, tout ça dans les années 70. Et il est directeur de la division théorique du CERN depuis juillet 1997. Ses travaux portent sur... Donc il est directeur de la division de physique théorique. Ces travaux portent sur les accélérateurs de particules et sur les rapports, vous allez le voir, entre infiniment grand et infiniment petit. Il est membre de l'Academia Europea depuis 1991. Je vais lui laisser la parole. Je vous remercie.
Est-ce que vous m'entendez ? Je vous corrige, je ne suis plus le directeur de la division de théorie, je suis un physicien. De nouveau, je ne fais plus de bureaucratie, je suis donc un homme heureux. Maintenant, supposons que vous soyez venu aujourd'hui, pas de quelque part au voisinage d'ici pour écouter un peu de physique, mais que vous soyez venu de vraiment, vraiment très très loin, un autre univers complètement différent du nôtre, où les lois de la physique seraient complètement différentes de celles dans notre univers. Si vous atterrissiez ici maintenant et vous sortiez de votre soucoupe volante, puisque vous avez un intérêt pour la science, vous le démontrez en étant ici, vous demanderiez tout de suite comment marche cet univers auquel vous arrivez. Vous vous rendrez compte très vite qu'il marche d'une façon relativement simple, parce que les choses les plus grandes et les plus petites, est-ce que le foyer est décent? Oui. Depuis les choses les plus grandes, aux plus petites, il y a une certaine organisation qui semble être plus ou moins la même à tous les niveaux. Et ce que je commence à voir ici, c'est une liste de choses des plus grandes aux plus petites, avec leurs dimensions en mètres. Voilà les différents objets, une vue de l'objet, les forces qui les tiennent en état d'équilibre, etc. Alors, les choses les plus grandes que vous voyez qui ont une certaine consistance sont des amas de galaxies. Les amas de galaxies sont faits de galaxies qui sont faits d'étoiles, et de planètes. Et il y a 15 ordres de grandeur entre ici et ici. Les étoiles et les planètes sont quelque chose comme 15 ordres de grandeur plus petites que les galaxies auxquelles ils appartiennent. Toutes ces choses-là sont tenues dans leur équilibre relatif par une force qui est la force de la gravité, dont l'utilité pour moi aujourd'hui, c'est de tenir debout, et pour vous, c'est de ne pas voler dans le vide de cet auditorium. Et les experts dans ce terrain s'appellent des cosmologues ou des astronomes ou des physiciens. Si vous allez sur certaines de ces planètes, sans doute beaucoup d'entre elles, vous verrez qu'à une échelle un million de fois plus petite, il y a des êtres vivants. Les forces qui tiennent ces êtres vivants dans leur structure plus ou moins stable sont les instincts et le sexe, dont l'utilité est de maintenir l'espèce, et les experts s'appellent des sociologues, des biologistes ou des chauffeurs de taxi en ordre de connaissance grandissante. Maintenant, cette force ici, à différence de la gravité et les autres dont je vais faire la liste, n'est pas considérée par les physiciens comme une force fondamentale de la nature. C'est pour ça qu'on ne s'intéresse pas du tout à ce domaine-ci. Maintenant, si vous allez regarder tous ces objets, des personnes, des arbres, des planètes, à une échelle un milliard de fois plus petite, vous verrez qu'ils sont tous faits de molécules, comme la molécule d'eau que j'ai dessinée ici, et les molécules sont faites d'atomes, comme l'atome de hélium, qui est fait de deux électrons, qui tournent autour d'un noyau doublement chargé, avec une charge opposée à celle des électrons. La force qui maintient toutes ces choses dans leur équilibre relatif s'appelle l'électromagnétisme, Elle est responsable pour beaucoup de choses, pour la chimie, pour la lumière, pour les complications de la vie quotidienne. Et les experts s'appellent des pharmaciens, des chimistes ou des plombiers. Maintenant, on est arrivé ici à une particule qui est l'électron, qui est un candidat en ce moment pour être une particule élémentaire, c'est-à-dire une particule qui n'aurait pas des parties, qui ne serait pas faite de particules plus petites. Le noyau, par contre, n'est pas une particule élémentaire. Vous savez tous que les noyaux sont faits de protons et de neutrons à une échelle 4 ordres de grandeur plus petite que celle de l'atome. Et les forces qui tiennent ces objets ensemble s'appellent des forces fortes et elles sont responsables du fonctionnement du Soleil, du bon fonctionnement du Soleil, du mauvais fonctionnement des réacteurs nucléaires, etc. Et les experts s'appellent, ce n'est pas très original, les physiciens nucléaires. Les protons aussi et les neutrons ne sont pas des particules élémentaires. Elles sont en fait faites de choses plus petites, qui sont peut-être élémentaires, qui s'appellent des quarks. Le proton, par exemple, est fait de deux quarks up et un quark down. La force qui tient les protons ensemble s'appelle la colle, pour ceux qui ne sont pas très sophistiqués. Et pour ceux qui sont un peu plus sophistiqués, ça s'appelle la chromodynamique quantique. Et c'est une force fondamentale dont les forces fortes dans le noyau sont une manifestation secondaire, de la même façon que les forces chimiques sont une manifestation secondaire des forces atomiques électromagnétiques. Maintenant, l'utilité de cette force-ci, la colle, n'est pas connue. On ne sait pas que ce soit utile pour quelque chose de concret. Les experts dans ce terrain s'appellent par exemple des CERNois, des gens qui travaillent au CERN comme moi. Et les mauvaises langues disent que l'unique application utile de cette force, c'est de justifier, par exemple, mon salaire. Ceci n'est pas tout à fait mon point de vue. Mon point de vue est que si on étudie des choses comme ça, simplement pour les comprendre, c'est parce que de comprendre, essayer de comprendre les choses et jouer le violon, c'est les deux choses qui distinguent l'homme du singe ou la femme de la guenon. Maintenant, la liste que je vous ai faite n'est pas complète parce qu'il y a des choses plus grandes que celles que j'ai citées et des choses plus petites que celles que j'ai citées dont on comprend un peu. Par exemple, on comprend ce qui a généré les galaxies. Ce sont des objets qui sont des petites manques d'uniformité dans ce qu'on appelle le rayonnement de fond auquel je retournerai. Responsable pour ces incertitudes, ces non-uniformités, c'est des incertitudes quantiques, et elles sont responsables pour les structures dans l'univers, les amas de galaxies, les galaxies, etc. Et les experts s'appellent des cosmologues ou des astrophysiciens ou des physiciens de particules. Maintenant, il y a aussi, on pense, ça on ne sait pas, c'est une hypothèse, que toutes les particules seraient faites de choses beaucoup, beaucoup plus petites, d'une dimension de l'ordre de 10 à moins 35 mètres, qui s'appellent des supercordes, et dans leurs différents états, c'est des objets étendus comme une corde, leurs différents états seraient les différentes particules. Et ces supercordes seraient responsables pour tout et expliqueraient toutes les forces, et les experts s'appellent des cordistes. Maintenant, il y a des gens qui croient savoir et comprendre des choses à un niveau supérieur aux choses plus grandes que la science a étudiées explicitement, ou à un niveau inférieur aux choses plus petites que la science a étudiées explicitement. Ces gens-là qui travaillent au-delà des frontières de la science s'appellent eux-mêmes des gourous, des philosophes ou des prophètes. Nous, les physiciens, nous les appelons simplement des cinglés. Maintenant, je suis censé de parler d'accélérateurs de particules. Je vais parler de quelques-uns un tout petit peu. Si vous prenez un avion pour aller à Genève et vous vous y approchez sur la ville et vous regardez vers le nord, vous verrez les montagnes du Jura au fond, nuageuses presque toujours, et l'aéroport de Genève ici. Ceci, vous ne le voyez pas à l'œil, mais il est là. C'est la frontière entre la France d'un côté et la Suisse de l'autre côté. Et ce truc que vous ne voyez pas non plus, et cet autre-là, vous ne les voyez pas parce qu'ils sont sous terre, c'est des grands accélérateurs. Celui-ci qui s'appelle le LEP, par exemple, a une circonférence de 27 km. Et ces édifices qu'on voit là, c'est le CERN. Maintenant, dans ce laboratoire, il y a pas mal d'accélérateurs. Et ils sont connectés les uns aux autres comme une montre suisse. il y a les petits qui fabriquent des particules qui sont injectées dans des plus grands, des énergies chaque fois croissantes, jusque le plus grand de tous, qui s'appelle le LEP. Et il est dans un tunnel où on est en train de maintenant construire un autre truc qui s'appelle le LHC, pour Large Hadron Collider. Maintenant, ces accélérateurs sont des trucs très compliqués, à première vue. Ils s'étendent comme ça pour des dizaines de kilomètres et ils consistent à des aimants qui courbent les particules dans leur chemin et puis des cavités accélératrices qui donnent un petit coup de pouce aux particules à chaque fois qu'elles passent de façon à augmenter leur énergie de plus en plus. Maintenant, beaucoup de gens qui viennent à un laboratoire comme le CERN ou n'importe quel autre laboratoire fondamental, je vous prie de m'excuser, pas tous mes transparents sont en français, mais pour quelqu'un qui s'intéresse à la science, la connaissance de différentes langues est nécessaire, en particulier l'anglais, donc je ne fais que un peu vous demander pardon pour ceci. Si vous visitez un laboratoire comme le CERN, vous aurez l'impression que ce qu'on y fait, c'est quelque chose d'une complication gigantesque. Par exemple, si vous voyez seulement, non seulement les accélérateurs, mais aussi les détecteurs, en voilà un de ces détecteurs qui sont au LEP. C'est un truc gigantesque qui fait 5 étages de haut et qui est évidemment assez compliqué. Ici, il y a des électrons qui cognent contre leur antiparticule qui s'appelle des positrons. Et on étudie avec ce truc ce qui résulte de ces collisions-là. Malgré que ces appareillages sont tellement compliqués, ce qui en sort, c'est souvent extrêmement simple. Par exemple, ceci est un résultat digitalisé d'une collision d'un électron et un positron. Ils ont eu une collision au centre du détecteur. Ils ont produit 2 autres particules qui s'appellent des tau, qui se sont désintégrées en des particules dont on mesure la masse et l'énergie avec le détecteur qui est autour. Donc les choses qu'on étudie au fond sont des événements relativement simples. Maintenant, malgré que tout ceci semble si compliqué, ce qui est vraiment compliqué et difficile à comprendre quand on regarde les choses à un niveau très fondamental, c'est non combien elles sont compliquées, mais combien elles sont simples. Vous savez tous qu'un Français, par exemple, qui vous décrirait un vin, pourrait passer des heures à décrire le vin. Il y a des milliers d'adjectifs qui servent à qualifier les différentes propriétés du vin. Un bon vin, en particulier, c'est quelque chose de très, très, très compliqué. Maintenant, une particule élémentaire est précisément le contraire du vin. C'est-à-dire, la difficulté de la comprendre est combien elle est simple. Si je vous dis, par exemple, que je tiens dans la main un objet dont la masse, dans certaines unités, est environ 1,5, et donc la charge électrique est moins 1, vous me diriez tout de suite, c'est un électron. C'est un électron parce que seulement les électrons ont ces propriétés-là. Mais ce qui est vraiment curieux, c'est qu'un électron n'a que 2 autres propriétés, 4 propriétés en total. Il a un spin 1,5, ça veut dire qu'il agit d'une certaine façon quand vous le regardez en tournant la tête. Et puis, il a un cousin qui s'appelle le neutrino. Et ça, c'est les seules 4 propriétés d'un électron. Ça veut dire, en particulier, que 2 électrons sont tout à fait identiques. Vous ne pouvez pas dire que l'électron que vous tenez dans votre main est un peu plus vieux que le mien ou le mien est un peu sale de poussière. Ils sont tellement simples qu'ils sont absolument, en principe et en pratique, complètement indistinguables. Ceci est difficile à comprendre parce que pour les objets macroscopiques, il y a toujours une certaine différence entre l'un et l'autre. Par exemple, Dupont et Dupont, comme vous savez très bien, celui dont le nom finit en D a la moustache en forme de D, celui dont le nom finit en T a le trait de la T dans la moustache. Ceci n'est pas le cas pour les électrons. Une autre chose qui est très intéressante quand on étudie les choses à leur base, c'est combien peu de concepts il faut pour comprendre l'ensemble de ce qu'on étudie. Par exemple, si vous étudiez le concept de force, vous trouvez la chose suivante. Une force entre particules élémentaires, c'est un peu comme l'effet d'un joueur de baseball qui envoie une balle à un autre joueur de baseball. Celui qui envoie la balle va un peu vers l'arrière à cause de l'impulsion qu'il a donnée sur la balle. L'autre qui reçoit la balle aussi tombe vers l'arrière à cause de l'impulsion que la balle lui donne. Ceci est la même chose que 2 électrons, par exemple, qui vont interagir. Ce qui arrive, c'est qu'un des électrons émet une autre particule qui s'appelle un photon, et quand la particule arrive chez l'autre gars, il lui transmet une certaine impulsion. Maintenant, ce que vous voyez, c'est que cette particule qui peut voyager comme un objet réel qui voyage dans l'espace est aussi une force, la force entre deux objets. Donc, il y a une unification, deux choses qui semblent être différentes. Une force et une particule ne sont pas tout à fait différentes. Une force est une particule échangée. On appelle ça une unification, une de ces façons d'épargner un concept quand on va sur la base des choses. Maintenant, je vais ouvrir une grande parenthèse ici pour parler de particules. Je croyais que ce projecteur allait être comme ça. Pour parler de particules dont je n'ai pas parlé tout à l'heure quand je vous ai fait la liste. Si vous regardez un atome d'hydrogène, par exemple, il est fait d'un proton et un électron. Un atome de hélium est fait de deux électrons autour d'un noyau avec deux protons et deux neutrons. Le neutron est une particule avec une masse un peu différente de celle du proton et une charge nulle au lieu d'une charge positive. Maintenant, il s'avère que l'électron a aussi un cousin, une particule qui lui ressemble beaucoup, mais qui n'a pas de charge électrique. On sait depuis récemment qu'ils ont une petite masse. Ces particules-là sont émises, par exemple, dans une désintégration nucléaire, quand un neutron se désintègre en un proton, un électron et une extra particule qui s'appelle un neutrino. Ces objets, les neutrinos, sont des particules particulièrement insaisissables. Et je vais vous dire combien insaisissables elles sont. Si je prends du rayonnement électromagnétique qui est fait de photons, comme la lumière, de particules de lumière, et je prends ces particules à une énergie de 1 milliard d'électron-volts, c'est une certaine énergie assez haute. À cette énergie-là, on appelle les photons des rayons gamma. Si on envoie des rayons gamma sur de l'eau et on se demande combien d'eau faut-il pour, à cette énergie, absorber la moitié du faisceau, étant donné les interactions des photons avec les électrons dans l'eau. Il faut, pour absorber la moitié du faisceau, environ 3 cm d'eau. Maintenant, si vous envoyez des neutrinos de la même énergie sur de l'eau, il vous faut, pour absorber la moitié, 1 milliard de kilomètres d'eau, c'est-à-dire 7 fois la distance entre la Terre et le Soleil. Donc, les neutrinos sont des particules particulièrement pénétrantes. Ils peuvent traverser cette piscine d'un milliard de kilomètres en laissant seulement la moitié de leur rang sur le chemin. On peut se demander à ce moment-là à quoi ça sert d'étudier des particules qui sont tellement fantomatiques, qui font si peu. Comme au CERN, par exemple, on étudie des faisceaux de neutrinos qui interagissent très peu de fois sur un certain détecteur et puis continuent leur voyage, ils passent deux fois sur le Jura avant de se perdre dans l'espace. À quoi sert-il d'étudier des particules qui ne font pas grand-chose? Bon, pour commencer, ça sert pour comprendre les choses à un niveau fondamental, mais ça sert aussi pour comprendre beaucoup d'autres choses. Par exemple, le Soleil. Le Soleil est un four à fusion thermonucléaire qui brûle de l'hydrogène et à travers certaines réactions que je ne vais pas lire en détail, le Soleil brûle 4 atomes d'hydrogène, 8 particules en total, pour produire un atome de hélium-4 qui a 6 particules en total et il y a 2 particules, celles qui manquent pour ainsi dire, qui s'échappent, qui sont des neutrinos. Sans des neutrinos, le Soleil ne marcherait pas. Sans des neutrinos, il n'y aurait pas de lumière sur cette Terre, il n'y aurait pas de vigne, il n'y aurait pas de vin, ce serait très grave. Maintenant, ces neutrinos qui partent du centre du Soleil vont plus ou moins à la vitesse de la lumière, ça leur prend 2,3 secondes de sortir et 8 minutes d'arriver jusqu'à la Terre. Les photons émis dans cette réaction aussi prennent 1 million d'années pour sortir parce qu'ils zigzaguent leur chemin, parce qu'ils interagissent beaucoup. Maintenant, ces neutrinos qui procèdent du centre du Soleil sont très nombreux. Il y a 60 milliards par centimètre carré de votre corps par seconde de neutrinos qui passent à travers vous en provenance du Soleil. Maintenant, comment sait-on que ceci, ce que je raconte, est en fait vrai et ce n'est pas simplement des foutaises? C'est parce qu'on a fait des expériences où on a vu ces neutrinos qui viennent du Soleil. Ces expériences sont faites avec des détecteurs qui sont mis très profondément sous terre, à 1 ou 2 km, pour éviter le bruit produit par le rayonnement cosmique, qui est en vrai des particules autres que des neutrinos, sur le détecteur. On se met très loin sous terre, avec un très grand détecteur, et on voit des neutrinos qui procèdent du centre du Soleil, qui traversent la Terre, et qui, de temps à autre, interagissent un peu dans le détecteur. Comme je vous dis, ces détecteurs sont très grands. Ce sont des piscines d'eau, parce que l'eau est le seul truc qui est relativement peu cher. En voilà un, je ne sais pas si vous le voyez très bien. Il est sous une montagne au Japon, il s'appelle Super Kamiokande et fait 30 mètres de haut et 15 mètres environ de diamètre. Donc c'est une gigantesque piscine sous l'eau où on fait la chose suivante. Il y a des neutrinos qui arrivent, mais vous ne les voyez pas arriver parce qu'ils interagissent presque pas. Et de temps à autre, ils cognent un électron dans l'eau, le neutrino continue et l'électron recule. C'est un peu comme jouer au billard à l'aveuglette avec un opposant qui aurait des balles que vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas la balle de l'opposant venir, ce que vous voyez, c'est votre balle reculée. Et de son recul, vous savez plus ou moins d'où venait la balle, le neutrino, de l'opposant. De la même façon que sur le billard, votre balle qui recule, vous la voyez. Dans le cas de ces piscines, les électrons qui voyagent très vite dans l'eau émettent une lumière similaire à la lumière d'un bateau à la surface d'un lac. Et cette lumière s'appelle lumière de Cherenkov et elle produit un anneau de lumière qu'on mesure à la surface de la piscine avec des détecteurs qui peuvent voir cette lumière-là. Je vous montre encore une photo de cette piscine quand elle était en train d'être remplie. Voilà trois Japonais sur une petite barque. Vous voyez que le truc est très grand, même si peut-être les Japonais n'étaient pas très grands eux-mêmes. Avec ce détecteur, on a pris une photo qui, à mon avis, est la plus belle du siècle dernier. La voici. Ceci est une photo de tout le ciel, à 180 degrés comme ça, et 180 degrés comme ça, mais projeté sur un plan. Et donc ça, c'est la sphère célestiale, pour ainsi dire. Et les points que vous voyez sont des désintégrations dans l'eau. On ne peut pas la purifier au-delà d'un certain point. Et cette tache au milieu, c'est en fait le cœur du Soleil. C'est une photographie, pour ainsi dire, une radiographie, si vous voulez, au neutrino du centre du Soleil. Et voilà, ici, elle est un peu électroniquement purifiée, on la voit un peu mieux, il y a plus de données ici. Ça, c'est le centre du Soleil que vous voyez avec une très mauvaise définition en façon de neutrinos. Donc, il est juste de dire que les physiciens qui étudient les neutrinos ont inventé une autre façon de regarder le ciel, qui est particulièrement utile à notre compréhension de comment marchent les étoiles. Voilà, là, je ferme mon parenthèse et je continue. Ces neutrinos dont je viens de parler ne sont pas des objets de particulièrement haute énergie. Mais quand on parle d'accélérateur, on parle toujours des objets qui vont à plus et plus et plus haute énergie. Pourquoi cette course aux hautes énergies? Il y a deux raisons. La première, c'est que pour voir les choses de façon de plus en plus microscopique, il faut aller à des hautes énergies. Par exemple, si vous voulez savoir que le proton est fait de quarks, il vous faut regarder le proton avec une définition plus petite que le rayon du proton. Si le rayon du proton est delta X, pour ceci, il faut une impulsion à ce photon dans cette interaction. Il lui faut à ce photon une impulsion, qui est la différence entre l'impulsion de ce gars-là et ce gars-là, plus grande que l'inverse de delta X, de façon que delta P, delta X soit d'une certaine quantité ou plus grand. Dans ce cas-là, vous pouvez voir à l'intérieur du proton. Vous reconnaissez peut-être cette formule-là. L'autre raison pour laquelle on veut aller à haute énergie, c'est qu'on peut ainsi créer et étudier des particules qui font part de ceux qui existent, mais qui n'existent plus, ou qui n'existent pas pour longtemps. Par exemple, quand TOLEP, l'accélérateur au CERN, ont fabriqué en collisionnant des électrons et des positrons de la même énergie qui voyagent l'un contre l'autre, des fois dans ces collisions, on produit une particule qui s'appelle un Z, qui en quelques fractions minimes de secondes se redésintègre de nouveau, par exemple, un électron et un positron. Et on dessine des fois ceci comme ceci, l'électron et le positron font un Z qui se redésintègre. L'énergie totale ici, qui est deux fois l'énergie de l'électron, est égale, quand on fabrique un Z ainsi, à la masse du Z fois C carré. Ça, c'est une formule que vous reconnaissez sans doute. Maintenant, à ce moment-là, il est peut-être utile que je vous rappelle une histoire. C'est l'histoire du gars qui s'est perdu sur sa montgolfière dans le brouillard pendant très longtemps, jusqu'à ce qu'à un moment donné, finalement, il aperçoit quelqu'un en haut d'une colline. Alors le gars d'en haut demande à celui d'en bas, « Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, me dire où je suis ?» Alors celui d'en bas se met à penser, regarde en haut, regarde en bas, se gratte la barbe. Et après beaucoup de temps, il lui dit, vous êtes à environ 5,45 m au-dessus de ma tête. Alors celui d'en haut dit, il n'y a pas de doute, vous êtes un physicien. Et pourquoi dites-vous ça? D'abord parce que votre pose a été très lente. Ensuite, parce qu'elle a été particulièrement précise et surtout parce qu'elle a été entièrement inutile. Maintenant, je parle à un public intelligent et non pas à des politiciens, donc je n'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi la science fondamentale est un bon investissement. Et je vais donc continuer avec la science fondamentale et pas avec son utilité. Pour ainsi faire, ce que je vais faire maintenant, c'est appliquer la science fondamentale à la connaissance de l'univers dans son ensemble. Et on va voir qu'on comprend un peu de l'univers. Et pour ceci, je vais me demander où sommes-nous. C'est-à-dire, je vais, pour commencer, faire un peu de géographie, ou plus précisément, un peu de cosmographie. Nous habitons une large galaxie spirale qui s'appelle la Voie lactée. Et on est à l'intérieur, donc la perspective n'est pas bonne, on ne la voit pas très bien. Si on la voyait de dehors, elle aurait une gueule plus ou moins comme ça. C'est un ensemble très grand d'étoiles. Il y a 10 à la 11 étoiles dans notre galaxie. 10 à la 11, c'est un chiffre difficile à imaginer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire à peu près la chose suivante. Si vous remplissez cet auditorium avec des grains de caviar d'environ 1 mm3, il y aurait 10 à la 11 pour remplir cet auditorium de caviar. C'est donc une quantité de caviar ou d'étoiles très, très considérable. On habite à côté d'une étoile dans une petite planète de 6400 km de rayon. À 22 000 fois le rayon de la Terre, on a notre étoile. La distance s'appelle entre ici et le Soleil une unité astronomique. La lumière prend 8 minutes à voyager tout ce chemin-là. À environ 1,5 milliard d'unités astronomiques depuis nous, on trouve le centre de la galaxie. Et la galaxie la plus proche de nous, qui soit grande, s'appelle Andromeda. Elle est à environ 1 milliard d'années-lumière de nous, donc 100 fois la distance entre ici et le centre de la galaxie. Et malheureusement, les astrophysiciens ne parlent pas en années-lumière, qui sont des unités raisonnables. Ils parlent en parsecs. Pour des raisons historiques, un parsec est environ 3 années-lumière. Maintenant, la chose suivante que je vous montre, c'est notre cousine galaxie Andromeda. Et Andromeda est 4 fois plus grande que nous. C'est une très, très grande galaxie. Tellement grande, elle est tellement proche qu'on peut la voir à l'œil comme un objet étendu, une nébuleuse, pas tout à fait un point. Et voici un dessin fait par Bouillot en 1667, où on voit en dessous des bras d'Andromeda la galaxie comme étant quelque chose d'un peu étendu, qu'on peut voir à l'œil nu. Maintenant, ce que je vais faire pour un moment maintenant, c'est de vous montrer des cartes à chaque fois à une échelle 10 fois supérieure. Voici encore une autre langue que vous devez apprendre. Chacune de ces cartes sera 10 fois plus grande que celle d'avant. Donc, à une échelle 10 fois plus grande que cette photo d'Andromeda, je vous montre ici un essai de montrer de façon tridimensionnelle où sont les galaxies qui sont autour de la nôtre. Celle-ci est la nôtre, celle-ci est Andromeda, il y a une trentaine d'autres petites galaxies autour. En fait, les galaxies se groupent, ici l'échelle maintenant est d'un million de parsecs, les galaxies se groupent en groupes de galaxies, et si vous regardez une carte à une échelle 10 fois plus grande que voici. Notre groupe est au milieu et vous voyez qu'il y a une flopée d'autres groupes autour avec maintenant 10 mégaparsecs entre ici et ici et une certaine activité d'un côté. Il y a plus de choses de ce côté que de l'autre. En fait, si je vous montre une carte à une échelle 10 fois plus grande, nous on se place toujours au milieu, je ne sais pas pourquoi, et il y a un amas de galaxies qui s'appelle l'amas de Virgo, qui est à une certaine distance, 16 mégaparsecs de là où nous sommes. Et il y a d'autres amas de galaxies autour. Maintenant, ces amas de galaxies se distribuent dans l'univers à une échelle encore 10 fois plus grande que moi. Voici une photo pas une photo, une représentation d'un quartier de 6 degrés de large et 120 degrés de long du ciel. Si vous prenez simplement une photo de cette région, vous voyez tous ces points-là qui sont des amas de galaxies. Mais si vous les distribuez aussi dans la troisième dimension, comme dans un morceau d'orange, vous voyez que ces amas de galaxies sont distribués d'une façon qui n'est pas tout à fait uniforme, c'est une espèce d'écume. Les amas de galaxies se distribuent dans l'univers en forme d'écume. Et finalement, si je vous montre une photo maintenant à une dimension encore 10 fois plus grande, c'est une photo de ce qu'on appelle le rayonnement cosmique de fond, auquel je retournerai. Et c'est un objet qui est très très uniforme. Les différences de densité entre les régions rouges et les régions bleues sont seulement une fois en 10 à la 5, à centième de millième. Et c'est la chose la plus lointaine qu'on puisse photographier. Je retournerai à ça. Maintenant, il est difficile, quand j'ai couru à travers tous ces objets de plus en plus grands, de se rappeler des dimensions relatives des choses. Donc il est bon d'avoir une mnémotechnique pour savoir combien les choses sont relativement grandes. Pour ceci, la première chose qu'il faut faire, c'est d'avoir un mètre d'une dimension fixe. Quoi de plus fixe et immuable que le franc suisse? Donc si je prends une monnaie de 5 francs suisses et je me dis « ceci est la dimension de notre galaxie », à environ un mètre, vous trouverez Andromeda, environ 10 mètres, il y a l'amas de Virgo, environ 3 km, il y a les plus lointaines galaxies qu'on puisse photographier. Et puis, l'univers visible n'aurait que la dimension de l'accélérateur LEP, c'est-à-dire quelques 27 km de circonférence. Vous voyez donc que par rapport à la galaxie, l'univers n'est pas tellement grand. L'univers visible n'est pas tellement grand. Je parlerai de ce que je veux dire par visible dans un instant. Ce qui est grand par rapport à nous est la galaxie, pas l'univers par rapport à la galaxie. Maintenant, je vous ai parlé de façon descriptive, sans aller essayer de comprendre les choses. Mais il y a une science qui s'appelle la cosmologie, où on comprend et on mesure des choses, qui naquit en 1927 avec une grande découverte de M. Edwin Hubble et d'autres un peu avant lui, qui est la apparente récession des galaxies. Dans un article avec un titre merveilleux, Le royaume des nébuleuses, Hubble démontra que s'il regardait des galaxies qui sont ces points-là, en les dessinant en fonction de la distance à laquelle elles sont dans cette direction et la vitesse apparente à laquelle elles s'éloignent de nous dans cette autre direction, il y a une espèce de ligne droite en général. Donc la vitesse est proportionnelle à la distance. Plus elles sont loin, plus elles semblent s'éloigner vite. Maintenant, ceci semble un peu anthropo ou gynécocentrique. On a l'impression qu'on serait au centre d'une explosion et qu'il y a des objets qui sont partis et ils sont arrivés à une distance proportionnelle à la vitesse à laquelle ils voyagent. Ceci n'est pas tellement anthropocentrique, parce que si vous vous mettez dans une autre de ces galaxies et vous dites, vous insistez, c'est moi qui est au repos, et vous calculez combien les autres s'éloignent de vous, vous trouvez exactement la même loi de vitesse proportionnelle à la distance. En fait, cette impression que la galaxie s'éloigne les unes des autres est fausse. Elle est fausse dans les termes de la théorie de la relativité générale, qui est la théorie qu'on emploie pour comprendre ces choses d'une façon explicite. Ce qui arrive, ce n'est pas que les galaxies bougent, c'est l'espace entre elles qui s'étire. C'est donc comme si on était à la surface d'un ballon qui est en train d'être gonflé. Je vais essayer de faire cette expérience. Normalement, le ballon éclate. Et vous avez des galaxies qui sont des points ici. Et il n'existe que la surface. La troisième dimension, c'est une façon de parler. Tout le monde habite à la surface comme des fourmis écrasées contre la surface. Maintenant, peut-être les galaxies bougent un tout petit peu. Mais si le ballon se gonfle, l'impression générale de chacune des galaxies, c'est que les autres s'éloignent. Il n'y a pas une galaxie particulière qui est au centre, mais elles ont toutes l'impression que les autres s'éloignent en fonction directement proportionnelle la vitesse à la distance. Et c'est ainsi qu'on comprend l'univers dans la théorie de la relativité générale. Maintenant, vous voyez que si l'univers est en train de s'épandre en ce moment, ça veut dire que dans le passé, il était plus petit et il était plus concentré. Maintenant, si vous prenez des galaxies ou un gaz ou n'importe quoi, et vous le comprimez, comme l'univers dans le passé, à quelque chose de plus petit, il est non seulement plus concentré, mais plus chaud. C'est-à-dire, quand vous concentrez un gaz, par exemple, vous pompez pour gonfler la roue de votre bicyclette, vous sentez que votre main gauche, si vous êtes droitier, se chauffe. C'est parce qu'en faisant pression, l'air comprimé devient plus chaud. Plus chaud, ça veut dire qu'il a une plus haute température. Une plus haute température, ça veut dire que l'énergie moyenne des particules qui composent ce gaz est plus haute. Plus haute la température, plus haute l'énergie moyenne. Donc, pour comprendre les choses à haute température, qui veut dire l'univers quand il était très comprimé, quand on était très loin dans le passé, c'est la même chose que comprendre les autres à haute énergie. Pour aller comprendre l'univers quand il était jeune, il faut comprendre la physique à une certaine haute énergie. Maintenant, une fois que je vous ai dit ceci, vous pouvez imaginer qu'on peut faire la chose suivante. On peut partir de maintenant et faire quelque chose comme passer le vidéo à l'envers, aller vers le passé, jusqu'au point où on commence à ne pas comprendre les choses, on ne s'arrête pas tout à fait au bout, on va simplement jusque là où on a étudié les choses avec des accélérateurs de haute énergie et on comprend encore comment les choses se passent. Et puis on repasse le vidéo directement vers l'avant et on se demande si le fait qu'on a compris comment se passaient les choses ici implique qu'il reste quelques résidus, quelques fossiles, quelques signatures de passé qu'on puisse voir maintenant et savoir si on avait vraiment compris. La réponse à cette question est oui, autrement je ne l'aurais pas posée. Et voici ici un transparent qui vous donne toute l'histoire de l'univers depuis qu'on le comprend, toutes les choses qui se sont passées. C'est un peu compliqué, comme vous voyez, c'est en anglais, donc je vais le traduire en français. En français, c'est encore pas tellement simple, donc je vais le traduire en espagnol. Et voilà ici l'essence des choses qui se sont passées. Vous avez ici une ligne qui montre comment la température de l'univers a descendu au fur et à mesure que l'âge de l'univers augmente. On est ici à 3 minutes depuis le début de l'univers, à 100 000 ans, et maintenant on est à environ 10 milliards d'années depuis le début de l'univers. Il y a seulement trois choses importantes qui se sont passées. La première, c'est quand l'univers avait un âge de 3 minutes, la température était aussi haute que les noyaux atomiques ne pouvaient pas être stables, parce qu'en collisionnant les uns sur les autres à une si haute énergie, ils se cassaient. Mais en descendant d'une certaine température, quelques noyaux atomiques, comme des gouttes d'eau, ont réussi à se former, et c'est ce qu'on appelle les éléments primordiaux, en particulier le noyau de l'atome de hélium, de protons et de neutrons, a été fabriqué par la nature, cuit à cette époque-là. Beaucoup plus tard, à 100 000 années d'âge, l'univers a souffert une autre transition intéressante, qui est la même que celle-ci, mais du point de vue atomique. Il y avait les protons et les électrons qui ne réussissaient pas à être dans des atomes parce qu'ils se cognaient trop fort. La température a descendu au-dessous de la température de la surface du Soleil, plus ou moins, et les atomes sont devenus stables. Ils ne se cognaient plus tellement fort pour se casser. Et à peu près à ce moment-là, l'univers est devenu transparent à la lumière qui était en équilibre, les photons qui étaient en équilibre avec ces particules. Donc il y a eu un flash de lumière soudain, comme si vous étiez dans une piscine dont l'eau serait bouillante. Soudain, elle s'arrête de bouillir et vous voyez beaucoup plus loin. Il n'y a plus les boules qui vous enlèvent la vue. Donc ce flash se produit et la lumière est devenue libre à partir de ce moment-là. C'est dans les deux prédictions dont je parlais et je vais retourner à elles dans un instant. Après que je vous ai dit qu'il s'est passé quelque chose d'intéressant aussi, c'est la mort des dinosaures à une distance très petite dans cet axe par rapport à maintenant. Le dernier des dinosaures est mort le 20 décembre 1975. Il s'agissait du général Franco. Maintenant, il y a quelqu'un qui dit que les cosmologues... je peux le dire en français. Non, je ne peux pas le dire en français. Les cosmologues n'ont presque jamais raison, mais ils ne sont jamais en doute. Cette fois-ci, les cosmologues avaient raison, parce que ces deux prédictions que je viens de faire étaient justes et décisives. Il y a une radiation cosmique qui est partout dans l'univers et qui maintenant s'est refroidi à une température de 2,7 degrés absolus. Et c'est cette photo que je vous ai montrée avec des petites différences de contraste. Et puis, l'autre prédiction sont les abondances relatives des éléments qui ont été cuits au début de l'univers, qu'on mesure et qui sont d'accord avec cette théorie qu'on appelle du Big Bang. Donc, la cosmologie est une science qui a un certain succès. Et je reviens à cet objet que j'ai montré plusieurs fois, qui est la radiation de fond, cette radiation qui a été libérée quand l'univers avait un âge de 100 000 ans. Cette lumière nous vient de très loin, 10 milliards d'années-lumière, l'âge de l'univers, moins 100 000 ans, l'âge quand il a émis cette lumière, donc presque 10 milliards d'années-lumière, et elle fut émise il y a très longtemps. Elle fut émise il y a 10 milliards d'ans, quand la lumière commença à voyager vers nous, quand l'univers était un bébé. Maintenant, cette idée que quand on regarde loin, on voit très loin dans le passé, est des fois un peu difficile à comprendre. Pourtant, c'est terriblement simple. Quand on regarde cette lumière, on regarde l'univers quand il était très jeune. Comment ça se passe? Bon, c'est très facile à expliquer. Supposons que je sois à Genève et que j'ai, comme c'est le cas, beaucoup d'amis en Italie. Et je leur dis, à une certaine heure précise, dire tous simultanément et très fort « ciao ». Maintenant, ce qui se passe, c'est que 10 minutes après qu'ils ont dit « ciao », j'entends le « ciao » de ce gars-là qui m'arrive à la vitesse du son. 20 minutes après, je reçois le « ciao » de ce gars-là qui m'arrive à la vitesse du son. Donc, même s'ils ont prononcé ce « ciao » simultanément, je vois de plus en plus des choses qui se sont placées plus loin dans mon passé. Ça prend une heure que j'entende le « ciao » de ce gars-là. Maintenant, dans le cas de l'univers, c'est exactement pareil, mais comme si j'avais encore beaucoup plus d'amis, comme ici, un peu partout, et je vais mettre ça de côté. Je suis ici à Genève et j'entends les « ciao » de tous ces amis qui sont à une certaine distance, simultanément à un moment donné. C'est un ciao qu'ils ont dit une heure avant. Dans l'univers, c'est la même chose. L'univers est en train de s'étendre, mais ceci est une complication qui ne compte pas. Mais à un moment donné, je vois la lumière qui fut émise par l'univers il y a très très longtemps, à partir d'une certaine distance de 10 milliards d'années. La lumière qui fut émise ici, elle a voyagé jusque-là. La lumière qui fut émise ici, elle a voyagé jusque moi. L'univers a 3 dimensions d'espace, donc ce n'est pas une circonférence d'amis, c'est une sphère d'amis qui m'envoie cette lumière dont je vous ai montré la photo plusieurs fois. Maintenant, quelle est la conséquence de tout ceci? C'est que quand on étudie avec des accélérateurs à une énergie, disons, 10 fois plus grande que celle qu'on avait étudiée avant, et on arrive à comprendre ce qui se passe à une énergie 10 fois plus grande que celle qu'on comprenait avant, on a compris les lois de la nature d'une façon 10 fois plus intime et l'histoire de l'univers aussi d'une fois quand il était 100 fois plus jeune. Pourquoi 100 ici? Parce que cette loi que je vous ai montrée de température par rapport au temps est quadratique. Donc on accomplit 2 buts en étudiant la physique des hautes énergies. Et en fait, quand on va depuis nous vers les choses les plus petites, par exemple les électrons ou les choses plus grandes, comme l'univers entier, le micro et le macrocosmos sont une chose qui s'étudie de la même façon, c'est de la physique des hautes énergies. Maintenant, je vous ai parlé pendant pas mal de temps de ce que nous comprenons, de l'anglais de nouveau, je regrette, et je ne vous ai pas dit, je vous ai peut-être donné l'impression qu'on comprend tout, ce n'est pas du tout le cas. Il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas et dont on fait des hypothèses, ou bien qu'on vraiment on ne comprend pas du tout. Je vais parler simplement, pour finir, d'une chose qu'on ne comprend pas du tout, qui s'appelle la constante cosmologique et qu'on désigne par la lettre grecque lambda majuscule, et le copyright ou les droits d'auteur reviennent à Einstein. Maintenant, pourquoi Einstein inventa cet objet appelé la constante cosmologique? La raison, c'est que Einstein, au début du siècle dernier, croyait que l'univers était statique. Alors il se dit, s'il est statique, puisqu'il y a une attraction gravitationnelle entre galaxies, il y a longtemps qu'il aurait dû collapser, tomber sur soi. Alors il eut une idée très simple, c'est T d'introduire une force égale et opposée à la force gravitationnelle entre les galaxies. Ceci était une idée très osée, parce qu'à l'intérieur de sa théorie, cette force était exercée par le vide sur le vide. C'était donc une drôle d'idée. Et quand Einstein sut que Hubble avait démontré qu'il y avait cette apparente fugue des galaxies, donc l'univers n'était pas statique mais en expansion, il crut que sa constante cosmologique n'était pas nécessaire et que c'était la plus grande erreur de sa carrière, selon lui. Il s'avère qu'il avait peut-être tort à croire que c'était une erreur, parce que cette constante cosmologique nous hante toujours. Il est possible, comme je vous ai dit, qu'un morceau de vide exerce une force sur un autre morceau de vide. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, qu'est-ce que c'est que le vide? Bon, le vide, c'est quelque chose d'assez simple de comprendre. Vous prenez cet auditorium, vous mettez tous les gens dehors, vous enlevez tous les meubles, vous éteignez les lumières, et à la fin, vous pompez tout l'air jusqu'à la dernière atome, et ce qui reste, c'est le vide. Maintenant, il se peut que le vide ne soit pas absolument vide, dans ce sens qu'il conserve quelque chose que vous ne pouvez pas lui ôter, comme le panache à Cyrano. Et c'est l'énergie par unité de volume. L'énergie par unité du volume de vide est ce qu'on appelle la constante cosmologique. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas lui pomper dehors. Et s'il a une certaine énergie par unité de volume, dans la théorie de la gravité d'Einstein, ça veut dire qu'il peut agir gravitationnellement sur un autre morceau de vide. Donc ceci n'est pas du tout inconcevable. Et en fait, dans la théorie des particules, les suggestions qu'on trouve en faisant des calculs, c'est que la constante cosmologique, l'énergie du vide, serait gigantesque, elle serait même infinie, beaucoup plus grande que ce qui est observé, ça, il n'y a pas de doute. Donc, pour le moindre qu'on puisse dire, c'est que nous avons un problème. Un problème qui était résolu, disons, pendant des dizaines d'années de la façon suivante. Ce que nous faisions, c'est on disait pour une raison qu'on ne comprend pas, un principe qu'on n'a pas encore été capable de trouver, la constante cosmologique est exactement nulle. Et voilà comment sont les choses, on continue comme ça. C'était une façon de fermer les yeux. On ne peut plus fermer les yeux et dire ceci. On trouvera pourquoi un jour la constante cosmologique est nulle. La raison, c'est qu'il y a des données récentes que je ne peux pas expliquer en détail, mais qui sont essentiellement la même chose que le dessin de M. Hubble, c'est-à-dire ceci est équivalent à la vitesse de récession de galaxies comme fonction de la distance à laquelle elles sont de nous. Et ça, c'est des supernovas qu'on voit dans des galaxies très lointaines. Et vous voyez que cette ligne n'est pas tout à fait droite, mais elle est un peu, ces objets-là sont un peu hauts par rapport à la ligne droite. Ça veut dire qu'ils vont à une vitesse un peu plus haute que ce qu'on s'attendrait quand elles sont très lointaines. Cette apparente vitesse de récession, je vous ai dit qu'elle est apparente, elle est plus grande que si elle était linéaire. Maintenant, pour faire ceci, il faut accélérer ces objets un peu plus. Et c'est la répulsion d'une constante cosmologique qui pourrait faire ceci. Quand on combine ces données avec les données sur la radiation cosmique de fond, cette lumière dont j'ai parlé plusieurs fois, ça, c'est le résultat des données de la radiation de fond. Ça, c'est le résultat des données des supernovas. Et elles se croisent à un certain point. Un certain point qui, dans ce diagramme, nous informe que le pourcentage de densité de l'univers en forme de matière est environ 30% de matière qui, par ailleurs, est d'une nature inconnue, mais je n'ai pas le temps de parler de ça. Et puis, 70% de l'énergie, la densité d'énergie de l'univers, 70% de la substance de l'univers est l'énergie du vide. Donc, l'univers est surtout du vide, un vide qui agit et qui a une certaine énergie. Et on ne comprend absolument pas pourquoi cette valeur de l'énergie du vide. La constante cosmologique est, dans un certain sens, le plus grand désastre naturel de tous les temps, dans ce sens qu'on ne le comprend pas. Et c'est pourquoi, à mon avis, à quelqu'un qui ne passerait pas au moins une heure par jour à essayer de résoudre cette énigme de la constante cosmologique devait être arrêté et mis en prison. Je n'ai pas eu le temps de vous parler des autres gros énigmes de la science physique en ce moment, qui sont l'origine de la masse des particules et la nature de la masse sombre de l'univers. Mais vous voyez bien qu'il y a beaucoup d'espoir pour la science, dans ce sens qu'il reste beaucoup de choses à comprendre, et que la situation actuelle, copyright de Mordillo, de la science fondamentale, n'est pas encore tout à fait satisfaisante. Mais quand même, on a fait énormément de progrès, et donc on peut s'attendre à en faire encore pendant le siècle dernier. Même pendant le demi-siècle dernier duquel je suis témoin, on a fait des progrès en science qui sont très terriblement impressionnants. En fait, ma perspective pour voir le progrès de la science est beaucoup plus grande que la vôtre. Je ne veux pas vous insulter en disant ceci, mais j'ai été éduqué à l'université de Madrid dans une époque franquiste où l'Espagne était tout à fait dans le Moyen-Âge. Donc ma perspective va du Moyen-Âge jusqu'à maintenant. Et j'exagère seulement un peu si je vous dis que mon professeur du troisième cours à l'université d'astrologie disait des choses comme la chose suivante. Il disait, vous savez tous que la Terre est au milieu et autour d'elle gravitent plusieurs choses. Il y a une première sphère avec le Soleil et la Lune, une deuxième sphère avec les astres et les planètes intermédiaires, puis il y a la sphère des planètes lointaines, et puis la sphère célestiale avec les étoiles. Alors moi qui étais à l'époque un élève très inquiet et posais beaucoup de questions, je me suis levé à un certain moment, j'ai levé ma main et j'ai dit, mais professeur, si la Terre est au milieu, comment fait-elle pour ne pas tomber ? Alors il m'a dit, mais c'est une question que j'ai déjà expliquée à la première année d'astrologie. Tous tes collègues le savent. La raison pour laquelle la Terre ne tombe pas, c'est qu'elle repose sur le dos de Atlas, un géant. Alors il m'a tué pendant un instant, mais moi je continue à penser. Après un moment, je lui ai demandé, professeur, mais si Atlas est là, pourquoi lui-même il ne tombe pas ? Alors, il m'a dit « idiot », parce qu'on nous traitait de cette façon à l'université. Tous tes copains le savent. La raison pour laquelle Atlas ne tombe pas, c'est qu'il est debout sur une gigantesque tortue. Alors il m'a tué, cette fois-ci, pendant pas mal de temps. Et finalement, je lève ma main pour la troisième fois avec la question définitive. Et le prof m'a dit « avant que tu me poses la question, je vais déjà te la répondre. » La réponse est c'est des tortues jusqu'au fond. Maintenant, comme je vous ai fait voir, on ne sait pas exactement si c'est des tortues jusqu'au fond, on ne sait pas exactement si c'est des quarks et des électrons jusqu'au fond, donc il reste beaucoup à faire pour la science du futur, en particulier les jeunes chercheurs d'aujourd'hui. Et je crois que ceci est un bon moment pour vous mettre une autre transparent en anglais et m'arrêter.
D'abord, je voudrais vous dire merci, je crois, au nom de toute la salle, pour l'humour avec lequel vous nous avez présenté les choses. C'est vraiment magnifique. Et je demande... J'ai assisté à de nombreuses conférences et vraiment, je crois que vous êtes le champion dans ce domaine. Vraiment formidable.
Je mettrai le maillot
jaune. Pour le reste, c'est d'une très grande clarté. Alors, personnellement, je voudrais simplement vous poser une petite question. Je suis tout à fait néophyte, mais je m'intéresse beaucoup à tout ce qui permet d'essayer de situer l'homme dans l'univers. Et j'ai entendu parler d'une théorie qui a été mise par Stephen Hawking, selon laquelle les particules de matière seraient constituées de nœuds de paquets d'ondes. Et j'aimerais bien savoir de la part d'un scientifique ce qu'il peut y avoir de réaliste dans cette théorie. Merci.
Je crois que vous n'avez pas raison. Monsieur Hawking n'a pas dit ça, que je sache. Et c'est une affirmation vague. Je crois que la seule chose qu'on puisse croire en ce moment sur une base scientifique, c'est, comme j'ai dit tout à fait au début, que peut-être toutes les particules différentes sont en fait des états d'une même particule qui s'appelle une supercorde et qui peut vibrer. Et en vibrant, elle peut vibrer de différentes façons. Elle peut vibrer comme ceci ou comme cela. Et ces différents états de vibration seraient les différentes particules. C'est peut-être dans ce sens que vous citez M. Hawking. Mais la théorie de supercorde n'est pas une théorie qui est due à M. Hawking. C'est en fait une théorie dont la maternité ou paternité est assez étendue. Il y a pas mal de gens qui l'ont pondue.
Monsieur, ici.
Je voudrais revenir à votre diapositive du Diplodocus. Vous avez bien montré l'évolution jusqu'à un certain moment qui est justement la limite des études de physique. À partir d'un certain moment, il semblerait qu'il faille passer le flambeau à la biologie. Est-ce que vous pensez que l'origine de la vie serait, que d'ailleurs les biologistes expliquent très mal pour l'instant, est-ce que ce serait dû aussi aux mêmes raisons qui ont fait qu'au début, il y avait uniquement des quarks, puis après des atomes, puis après des molécules, etc.
Mais je ne peux pas vous répondre clairement parce que je ne le sais pas. Je ne le sais pas parce que les biologistes n'ont pas reproduit au laboratoire l'origine de la vie. Mais il me semble très clair que c'est bien possible que ce soit un phénomène naturel comme les autres phénomènes naturels de l'évolution de l'univers. Simplement que c'est déjà une échelle de complication plus grande, une échelle que les physiciens ne réagissent pas à comprendre encore.
Oui, à un moment donné, vous avez passé une diapositive, on voyait de la matière et de l'antimatière se transformer en énergie. Je voudrais savoir qu'entend-on exactement par annihilation et transformation en énergie, et d'après ce que vous avez dit, nouveau. De nouveau, l'énergie se transformerait en matière.
Il n'y a pas une différence fondamentale entre énergie et matière. L'énergie d'une particule au carré et sa masse au carré plus son impulsion au carré. Et j'ai effacé quelques facteurs de la vitesse de la lumière. Donc, la masse d'une particule est son énergie au repos. S'il a plus d'énergie que son énergie au repos, c'est parce qu'elle bouge. Cette énergie, qui est toujours la même chose, soit-elle masse ou énergie totale, peut être transformée d'un objet à l'autre. Et quand vous avez deux électrons qui sont à une énergie si haute que leur masse est pratiquement négligeable, deux électrons qui collisionnent, ils peuvent se convertir en une autre particule dont la masse est la somme des énergies de ces électrons. C'est un fait fondamental que les interactions entre les particules sont des choses qui arrivent ponctuellement et qui peuvent être soit voici une particule qui voyage et qui émet une autre particule. Maintenant, ce même diagramme, pour ainsi dire, je le tourne un peu et j'ai une particule qui vient d'ici, une particule qui vient de là et qui devient une troisième particule. Toutes ces choses, c'est la même chose et on peut transformer énergie en masse. Les différentes masses définissent les différentes particules, ou masse en énergie, puisque c'est au fond la même chose.
Ici, à gauche. Allez-y, on vous voit.
Oui, je voudrais vous demander, par rapport à la démonstration, enfin à la fin de votre démonstration, quand vous avez parlé de la constante du vide, enfin, liée au vide, qu'est-ce qu'on ne comprend pas exactement ? Est-ce que c'est le fait que le vide est de l'énergie plutôt que pas d'énergie, ou est-ce que le fait qu'il y a une constante répartie dans tout l'univers.
Quand on essaye de la calculer, on trouve des chiffres qui sont 10 à la 50 fois plus grandes que la valeur mesurée. Si la valeur mesurée était exactement zéro, ce qu'on ne peut pas mesurer, mais si elle était compatible avec zéro, on aurait dit, bon, il doit y avoir un principe qu'on n'a pas encore compris qui explique pourquoi c'est zéro. Mais ce n'est pas zéro, c'est une quantité beaucoup plus petite que ce qu'on pense que ça devrait être. Ce n'est ni zéro, ni très grand, c'est quelque part très près de zéro, et c'est cette chiffre, si petite par rapport aux chiffres qu'on pourrait calculer, qui nous surprend. Parce que c'est facile à dire c'est zéro pour une raison qu'on ne comprend pas, mais ce n'est pas facile à dire c'est cette petite quantité-là pour une raison qu'on ne comprend pas. Si c'est une certaine petite quantité, il faudrait comprendre.
Madame, tout en haut.
Bonjour, monsieur. Si je comprends bien, on ne sait pas pourquoi l'univers s'expand, alors.
Pourquoi l'univers existe ?
Pourquoi l'univers s'expand
Pourquoi s'étend-il ? La réponse à cette question dépend de tout le début de l'origine, de début de l'univers, tout à fait à son origine. Il est né dans une situation où il s'étend. On ne comprend pas ça parce qu'on ne comprend pas l'origine de l'univers. Il faut admettre que nous n'arrivons pas aussi loin pour comprendre l'origine de l'univers. Et pourquoi il s'étend ? On croit en fait qu'il s'étend à cause du fait que quand il était très jeune, la constante cosmologique n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui, mais elle était très 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 grande. Et donc tout l'espace se rejetait, chaque morceau d'espace poussait très fort le reste de l'espace pour le faire s'étendre. Donc on pense que la constante cosmologique, qui est encore cette chose qu'on ne comprend pas, est aussi la raison pour laquelle l'univers, au début, est né dans cette situation de violente expansion.
L'origine de l'énergie du vide. L'origine.
Quelle est l'origine?
L'origine de l'énergie du vide.
Puisqu'on ne comprend pas la valeur de l'énergie du vide, on ne comprend pas non plus l'origine de l'énergie du vide. Mais ce n'est pas du tout c'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce que le vide, en théorie de particules, n'est pas du tout vide. Il a par exemple une chose qui s'appelle le champ de Higgs, qui est une substance qui est responsable de la masse des particules, nous croyons. C'est pour ça qu'on construit le LHC au CERN, c'est pour étudier cette idée surtout. Donc il y aurait une certaine friction entre une particule qui voyage et le vide, qui n'est pas tout à fait vide. Et cette certaine friction, qui serait différente pour chaque particule, serait à l'origine des masses différentes de chaque particule. Donc on croit que le vide a une certaine substance. D'autre part, quand on parle de ces choses-là, il faut parler de mécanique quantique. Et en mécanique quantique, il y a le principe de l'incertitude, qui veut dire que, par exemple, pour un temps très petit, vous pouvez violer la conservation de l'énergie un tout petit peu. Donc, si je regarde le vide avec une instantanée très vite, l'énergie n'est pas conservée. Donc, on peut créer, par exemple, une paire de deux particules, un électron et un positron, qui se créent et qui se redésintègrent. Et le vide serait plein de ces choses qui se passent. Il grouille d'activité. Donc, le vide, pour un physicien, comme le vide pour un bouddhiste, c'est quelque chose qui n'est pas du tout vide. En fait, le Dalai Lama est venu deux fois au CERN s'informer sur ce que nous pensons, nous, sur le vide. Et donc, quand vous posez la question, qu'est-ce que c'est que cette énergie de vide ? C'est beaucoup de choses. Mais chacune de ces choses dont je vous ai parlé donnerait, si on calcule plus ou moins, combien d'énergie de vide ça devrait avoir. C'est beaucoup plus grand que la constante cosmologique qu'on comprend. Donc, encore ce mystère de la valeur de la constante cosmologique.
Monsieur, alors...
La dimension de notre bulle d'univers se situerait aux environs de 10 milliards d'années-lumière, ou 15 milliards selon d'autres, enfin disons c'est à peu près cette approximation, que peut-on dire de l'au-delà de cette bulle d'univers visible? Vous aviez dit que vous alliez en parler, hein, donc l'univers dans son entier, que peut-on dire de lui? Et pourquoi seulement cette partie est visible? Pourquoi l'appelle-t-on visible? Visible par rapport à quoi?
Oui, je l'ai en fait expliqué, mais j'étais en train de courir un peu, donc je ne l'ai pas tout à fait expliqué. Vous voyez, à un certain moment, voilà l'Italie, c'est le plus agréable comme ça, à un certain moment, j'ai tous mes amis qui ont dit ciao et leur ciao m'arrive. Donc, mon univers qui consiste à mes amis est un univers écoutable pas visible, écoutable seulement jusqu'ici. Une heure après qu'ils ont dit ciao, mon univers écoutable arrive jusque-là. Parce qu'il y a eu le temps simplement pour arriver la lumière d'ici jusqu'ici. Quand l'univers devint transparent, quand il avait 100 millions d'années d'âge, toute la lumière a commencé à voyager tranquillement. Et je vois la lumière qui vient d'une distance qui est la vitesse de la lumière fois le temps qui s'est passé depuis que cette lumière a été émise. Donc j'appelle univers visible l'âge de l'univers fois la vitesse de la lumière. L'univers visible aujourd'hui est une année-lumière plus petit que l'univers visible l'année prochaine. Parce que l'année prochaine, j'aurai ces amis qui sont un peu plus loin, pour ainsi dire, à une année-lumière de distance, et l'univers visible l'année prochaine sera un peu plus grand que cette année-ci, à une année-lumière plus grand. Donc chaque année, cette frontière se rétrécit, et je vois de plus en plus loin, parce que la lumière a eu le temps de m'arriver de plus en plus loin. Mais l'univers est tellement plat, mesurer qu'il est tellement plat qu'on sait que le vrai univers est beaucoup plus grand que l'univers visible. C'est-à-dire, on est dans un drap où on n'est qu'une petite tache et on voit la lumière qui nous arrive depuis le début de ce drap qui s'est épandu seulement à une certaine distance. Mais il y a d'autres gens loin qui ont aussi un univers comme le nôtre et qui ne sont pas suffisamment près de nous pour qu'on puisse parler avec eux en échangeant de la lumière. Ils sont trop loin en ce moment. Mais si on attend, l'univers deviendra de plus en plus grand, l'univers visible, et on arrivera à voir ces gars-là, pour ainsi dire. Donc l'univers a une dimension visible finie, parce qu'il a un âge fini, et la vitesse de la lumière n'est pas infinie.
L'expansion de l'univers est-elle irréversible? Et si c'est le cas, comment ça se peut, quoi? Est-ce que l'univers est lui-même dans un espace qui est borné ou n'est pas borné? Enfin, comment ça se passe, quoi?
Bon, dans la théorie de la relativité générale, qui est la façon explicite dont on parle de ces choses-là, la matière de l'univers, l'espace de l'univers, le temps et la densité d'énergie de l'univers sont toutes des choses qui sont connectées. C'est-à-dire l'espace a une certaine structure qui est produite par la force gravitationnelle de la matière qu'il contient. Donc ces questions ne sont pas séparables. Et en particulier, l'univers n'est pas plongé dans un autre espace. L'univers est son propre espace. Et donc je ne peux pas me placer dehors comme j'avais fait avec le ballon et voir l'univers du dehors depuis un espace extérieur. Je ne sais pas si c'est exactement la réponse à votre question, parce que j'ai oublié votre question. Ah, non. Le futur de l'univers dépend de sa densité d'énergie. Si sa densité d'énergie est positive, il va collapser sur soi-même. S'il y a une constante cosmologique, comme on le croit, alors sa densité d'énergie provoque une force répulsive et l'univers va s'étendre de plus en plus vite dans le futur, si cette constante cosmologique est vraiment là. Alors ce qui se passera, c'est que toutes les galaxies lointaines partiront si loin qu'on ne les verra plus et on ne restera qu'avec les galaxies proches de nous. La cosmologie ne sera plus une science parce que les autres galaxies auront parti trop loin pour les voir. Donc c'est un sombre futur, mais ce n'est pas pour demain. Le Soleil deviendra une étoile rouge et géante et nous brûlera bien avant ça.
Bonjour, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur le boson de Higgs et est-ce que vous avez trouvé quelque chose récemment à ce sujet?
Oui, je vous ai dit qu'on croit que le vide est rempli d'une substance qui s'appelle le champ de Higgs qui serait responsable des masses des particules. Maintenant, si le vide a une certaine substance, on peut le faire bouger, comme la surface de l'eau. Si on le fait bouger, il y aura des ondes qui se propagent, et en physique des particules, les ondes et les particules sont la même chose. Les ondes qui se propagent dans le vide, des ondes de vide qui bougent, c'est les particules de Higgs. Pour étudier cette théorie que la masse des particules est due à une certaine propriété du vide, on essaye de trouver les particules qui seraient le vide qui bouge. et ça s'appelle les particules de Higgs. Et c'est les particules qu'on cherche avec la machine suivante qu'on est en train de fabriquer, qui s'appelle le LHC. Mais c'est aussi des particules pour lesquelles on a trouvé une certaine évidence aux dernières minutes de la vie de l'accélérateur antérieur qui s'appelle le LEP et qui est maintenant en train d'être démonté. Quand cette évidence a été trouvée, il y avait des raisons économiques pour arrêter le LEP et ne pas aller l'étudier plus au fond. Donc elles sont restées en évidence pas complètement convaincante. Tous les physiciens étaient de l'opinion qu'il fallait continuer, qu'il fallait faire un petit effort, même économique, ce n'était pas tellement, mais un petit effort humain, disons, et continuer à étudier ces particules tant qu'on avait l'accélérateur sous la main qui marchait et qui pouvait peut-être être en train de les produire. Il y a eu une décision, à mon avis, entièrement politique, qui a été d'arrêter cette machine et attendre 8 ans ou 7 ans à en avoir une autre plus énergétique. À mon avis, c'était une grave erreur, parce que quand on a une évidence et on est un scientifique, on va jusqu'au fond.
Dans la course aux hautes énergies, ne serait-il pas plus intéressant de privilégier l'étude des rayonnements cosmiques, parce que je crois savoir que les énergies mises en jeu sont bien supérieures à celles que l'on peut obtenir dans les accélérateurs de particules. En dehors des gros problèmes techniques que ça peut produire, puisque je crois savoir que ce sont des événements rares et difficiles à observer, est-ce que scientifiquement on aurait plus de choses à apprendre dans l'étude des rayonnements cosmiques que dans la réalisation d'expériences en accélérateur de particules?
Vous avez tout à fait raison, les énergies des rayons cosmiques qui nous pleuvent, pour ainsi dire, sur la surface de l'atmosphère, arrivent à des valeurs qui sont beaucoup plus grandes de celles qu'on puisse produire dans des accélérateurs. Malheureusement, les particules de très très haute énergie sont très très peu, arrivent très peu souvent. Le flux est très petit. Par exemple, on est en train de développer maintenant un détecteur qui couvre quelques centaines de kilomètres carrés, pas complètement, mais de temps à autre, et qui ira voir les plus hautes énergies. Même cet énorme accélérateur ne voit qu'une particule par an de celles qui sont de la plus haute énergie. Donc avec ceci, malheureusement, vous ne pouvez pas faire grand-chose, parce que le détecteur est très primitif. C'est l'atmosphère, en fait, le détecteur avec laquelle l'objet collisionne et produit une douche de particules qu'on étudie. Ce n'est pas un détecteur très détaillé. Et en plus, le flux est vraiment minimal. Donc, vous avez raison et vous n'avez pas raison. En fait, vous avez raison. Et la preuve que vous avez raison, c'est qu'on continue à construire des détecteurs de rayons cosmiques de plus en plus grands et de plus en plus performants. Mais les deux façons de le faire sont complémentaires. L'une est avec un très grand flux et on peut faire des choses de très haute précision, et l'autre est avec un très petit flux, mais on peut aller à très haute énergie.
Alors on va prendre une dernière question ici. Où est-elle? Non, c'est peut-être monsieur là-haut. Une question, hein, une seule. Et puis après, j'ai des questions qui sont remontées. On ne va pas s'attarder, mais les questions qui sont remontées de personnes qui suivent en direct la conférence sur Internet. Allez-y, monsieur.
Alors, très rapidement, j'ai juste deux questions. Alors, la première, c'est je suis un petit peu désespéré par la dimension énorme de l'univers qui fait que s'il existe des êtres intelligents, d'ailleurs, il y a des expériences qui sont menées là-dessus actuellement pour essayer de capter des sons dans l'univers. Et donc, puisque l'univers est tellement grand, j'ai bien peur qu'on ne puisse jamais avoir un contact avec des êtres vivants qui seraient peut-être dans des galaxies extrêmement éloignées. Donc, je me demande bien si cela pourrait être possible un jour. Ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est par rapport à l'énergie du vide. Le vide, on a bien vu que si on vidait, par exemple, cette salle de tous les atomes, toutes les particules, il resterait quand même une particule que vous avez nommée champ X. Je n'ai pas bien retenu le
oui, ce n'est pas une particule, c'est une substance.
C'est une substance. Alors, et vous avez également dit que pour pouvoir explorer certaines particules, il faut de l'énergie de plus en plus haute pour pouvoir les observer. Cela montre à l'évidence la complexité de la matière. Et là également, je me dis, on ne pourra pas vraiment étancher notre soif de la connaissance, parce que il y aura toujours une particule qui nous est inconnue parce qu'on n'a pas les moyens de pouvoir l'explorer tellement l'énergie est haute pour pouvoir l'observer. Voilà. C'était la question que je, la deuxième question.
Voilà.
Est-ce qu'un jour on pourra explorer complètement le vide? Voilà.
Bon, la première question, c'est si ce n'est pas un peu désagréable que l'univers étant si grand, on a probablement des cousins verts quelque part avec lesquels on ne peut pas parler. Oui, je trouve que c'est dommage que toutes ces histoires de toutes ces autres civilisations qui probablement ont lieu dans d'autres planètes nous seront méconnues pour le futur, même très lointain. Ceci est un peu désespérant, mais il y a des choses bien plus désespérantes plus près. Par exemple, il y a tous ces enfants qui sont en train de mourir en ce moment de faim et on n'arrive même pas à ces gens-là. Donc, Et l'autre question, c'est si il nous restera toujours quelque chose à savoir. Ça, on ne sait pas. On ne sait pas si la science physique a une fin ou non. Il est possible qu'un jour, on trouve les lois définitives et on soit complètement convaincu que ça y est. Ce qu'on sait pour l'instant, c'est que ce n'est pas encore le cas.
Alors, merci. Une dernière, je prends une question cette fois-ci qui nous est remontée. Une, c'est Christophe Durieux qui demande, avant le Big Bang, a-t-on un moyen de savoir quoi que ce soit?
Non, la réponse est on n'a pas de moyen de savoir quoi que ce soit avant le Big Bang. Mais peut-être il n'y avait pas un avant le Big Bang qui était tout à fait différent du après du Big Bang. Il y a certaines théories dans lesquelles les univers se créent et se détruisent un peu partout, de façon que notre univers n'est pas quelque chose d'autres univers qui ont été fabriqués et détruits ici et là. Donc il y a peut-être une continuité d'univers. Il n'y a pas un Big Bang qui soit particulièrement important, qui soit le nôtre. Ça serait le comble de la révolution copernicaine. Même notre univers n'est pas unique. Et ça, c'est tout à fait raisonnable aussi. Donc, même si on ne sait rien d'avant le Big Bang, et même si on ne saura jamais peut-être rien d'avant le Big Bang, il y a des façons d'éviter cette question qui est un peu dangereuse.
Bien, nous allons nous en tenir là. Nous vous remercions vraiment très chaleureusement, Alvaro de Rujula.